Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Effectivement, deux heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs, bien sûr, l'info. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Tous les jours jusqu'à 13h.
Et à la une, peut-être bientôt la fin des fermetures de classes systématiques en cas de Covid. Sanofi qui renonce à son vaccin ARN. La France qui durcit le ton à l'égard des pays du Maghreb. Et puis du foot, PSG Manchester City, c'est ce soir.
Juste après le journal, nos deux débats. Tarif de l'énergie, la bombe à retardement de la présidentielle. Je vous le disais, plus 57% depuis le début de l'année. Et puis on vous emmènera à Marseille avec la grève des éboueurs. Poubelle, la vie.
La question du jour sur RTL.fr, elle concerne justement la flambée des prix de l'énergie. Le gouvernement doit-il baisser la TVA sur certains produits, comme le propose un certain nombre? Vous dites oui à 88%. On verra d'ailleurs si c'est la seule solution tout à l'heure avec Martial You. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
Bon, c'est pas trop moche aujourd'hui.
Non, c'est vrai, c'est plutôt calme, plutôt sec sur les trois quarts du pays, entre nuages et éclaircies au nord, plus ensoleillé au sud, alors sauf sur les Alpes où il y a encore pas mal de nuages. Et une nouvelle perturbation arrivée par l'ouest ce matin progresse lentement. Elle concerne surtout la Bretagne. À l'avant, le ciel est chargé entre la Vendée et le nord et juste quelques averses éparses. Et dans le sud-ouest, pareil, beaucoup de grisailles et quelques pluies. Les températures en baisse de 17 à 20 au nord, de 20 à 23 au sud, jusqu'à 27 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Après la fin du masque, fin annoncée en primaire dans les départements verts, voilà peut-être bientôt un nouveau protocole à l'école. Le gouvernement, en tout cas, planche sur un moyen d'éviter les fermetures de classes systématiques en cas de Covid. Bonjour Agathe Landais.
Bonjour.
Une expérimentation va être menée dans 10 départements.
Oui, selon ce protocole, si un élève est testé positif, dès le lendemain, il faudra tester tous ses camarades de classe. Ce seront a priori des tests salivaires. Les enfants testés positifs rentreront à la maison. Les négatifs resteront en cours et ceux que l'on ne pourra pas tester, faute d'accord parental, seront considérés comme positifs et donc renvoyés chez eux. Ce sera expérimenté donc dès ce lundi dans 10 départements. La liste sera dévoilée après-demain. Mais le ministère de l'Éducation nous indique que ces départements auront des situations sanitaires très variées, avec plus ou moins de taux d'incidence, avec beaucoup ou peu de personnes vaccinées. On regardera aussi si c'est efficace là où les enfants ne porteront plus le masque. Ce protocole permettrait en tout cas d'éviter des fermetures automatiques de classe. Il nous fournira aussi un suivi plus précis de la circulation du virus.
Agathe Landais du service santé de RTL. Concernant la vaccination, nouveau coup de théâtre, Sanofi renonce à son vaccin ARN messager contre le Covid. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Que s'est-il passé? Pourquoi ils arrêtent?
Bien parce qu'en fait, le marché est déjà occupé. Il est occupé par Pfizer, il est occupé par Moderna et il n'y a plus de place pour Sanofi, qui n'a sans doute pas cru assez vite et assez fort à cette nouvelle approche. Si le laboratoire français poursuit ses essais, les résultats ne seront pas connus avant des mois et lorsque le vaccin sera prêt à être commercialisé, environ fin 2022, ce sera trop tard. En revanche, Sanofi Pasteur veut continuer d'investir sur l'ARN messager. 400 millions d'euros cette année, c'est la moitié de son budget de recherche et développement. L'objectif est être prêt pour développer des vaccins contre les prochaines pandémies, prendre le prochain train, mais aussi lancer des essais d'un vaccin ARN messager contre la grippe, par exemple.
On dit que c'est une catastrophe pour la recherche française. C'est vrai ça, Sophie ?
Mais en termes d'image, de positionnement sur des marchés extrêmement concurrentiels, c'est certain que c'est une très mauvaise nouvelle, même si Sanofi s'en défend. Le laboratoire préfère retenir son rôle dans la pandémie en soulignant qu'il est le seul labo du monde à produire tous les vaccins présents sur le marché. Sanofi a signé des partenariats avec Pfizer, Moderna et Johnson. 500 millions de doses dans les prochains mois. L'autre espoir, c'est son vaccin à protéines recombinantes contre la Covid-19, développé avec GSK. La phase 3 doit se terminer à la fin de l'année avec deux objectifs, l'injecter en première dose ou alors en dose de rappel à partir de l'année prochaine.
Merci beaucoup Sophie. Sophie Orange pour ces explications.
Autre récent revers pour la France, la crise des sous-marins avec l'Australie.
Emmanuel Macron a, et pour la toute première fois, a évoqué publiquement le sujet tout à l'heure, la nécessité notamment pour l'Europe de ne plus être dépendant des États-Unis.
Les Européens doivent sortir de la naïveté. Nous sommes obligés de constater que depuis maintenant un peu plus de 10 ans, les États-Unis d'Amérique d'abord se concentrent beaucoup sur eux-mêmes, et ont des intérêts stratégiques qui se réorientent vers la Chine et le Pacifique. Nous devons, en tant qu'Européens, prendre notre part dans notre propre protection. Je pense que c'est légitime. C'est donc à nous de le faire.
Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre grec, les deux hommes ont signé ce matin un nouveau contrat militaire, l'achat de 3 frégates à la France pour 3 milliards d'euros dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays. Emmanuel Macron, qui présidera demain l'hommage au caporal-chef Maxime Blasco, mort vendredi au Mali. La cérémonie aura lieu aux Invalides à 16h30. Avant cela, le chef de l'État clôturera ce soir les assises de la santé mentale et annoncera le remboursement des séances chez le psychologue par la Sécu. C'est une nouveauté, RTL vous le révélait dès ce matin. La mesure est toutefois loin de faire l'unanimité dans la profession. Écoutez Solène, elle est psychologue à Nantes et dénonce le fait qu'il faille désormais passer par un médecin.
Le psychologue n'a jamais travaillé sur prescription médicale. Nous avons une formation qui est reconnue par l'État à Bac plus 5. Nous tenons à l'autonomie de nos pratiques et la prescription médicale, c'est non.
C'est un de nos sujets.
Des propos recueillis pour RTL par Anaïs Bouissou.
Dans l'actualité également, la France qui durcit les conditions d'accès aux visas.
Oui, c'était une décision qui a été annoncée tout à l'heure par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. On va détailler précisément dans un instant de quoi il s'agit avec Thomas Proutot. Avant cela, écoutez la réaction de Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, candidat, on le sait, à l'élection présidentielle. Il dénonce une annonce purement électoraliste.
C'est un pur effet d'annonce, sans aucune crédibilité. Il n'y a aucune cohérence dans son annonce puisqu'il ne se donne pas les moyens de réussir cette division du nombre de visas pour deux raisons très simples. C'est qu'il ne veut pas contrôler les frontières et qu'il laisse l'espace Schengen ouvert. Et deuxièmement, c'est qu'il ne remet pas en cause le regroupement familial qui est la principale cause d'arrivée sur le sol français en provenance du Maghreb. Sans parler des demandes d'asile qui ne sont pas expulsées quand elles sont refusées. Donc c'est une goutte d'eau symbolique, électoraliste, pour faire croire qu'il agit alors que c'est porte ouverte depuis son élection.
Nicolas Dupont-Aignan, joint pour RTL par Vincent Derosier. Une goutte d'eau, dit-il. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Concrètement, qu'est-ce qui va changer?
Alors, dès cette semaine, la délivrance de visas court séjour pour les Algériens, les Marocains et les Tunisiens qui souhaitent venir en France va être drastiquement limitée. Moitié moins pour l'Algérie et le Maroc, un tiers de moins pour la Tunisie. C'est ce qu'annonce en tout cas le gouvernement. Cela concerne en théorie les touristes, mais aussi certains étudiants et les hommes d'affaires.
Et pourquoi la France durcit le ton?
Parce que les 3 pays du Maghreb, Algérie en tête, sont accusés de ne plus reprendre leurs sans-papiers interpellés en France. Pour expulser un étranger, il faut en effet un laissez-passer consulaire du pays d'origine. Avec l'épidémie de Covid, les expulsions se sont interrompues, c'est logique, mais elles ne reprennent pas et Paris en rend responsable Tunis, Alger et Rabat. Alors, le timing de la mesure interroge tout de même, alors que l'immigration s'est fortement invitée dans les débats en vue de la présidentielle. Un conseiller ministériel nous assure que le problème est discuté depuis des mois. Autre interrogation, on se demande combien de personnes cela va réellement concerner. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie sont en effet toujours en zone rouge Covid et le nombre de visas pour la France est déjà réduit à sa portion congrue.
Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Les écologistes sauront ce soir qui de Yannick Jadot ou de Sandrine Rousseau les représentera pour cette présidentielle. Résultat du second tour de la primaire, ce sera à 17h30 tout à l'heure. Au procès des attentats du 13 novembre, parole aujourd'hui aux victimes. La cour d'assises va entendre et pendant les 5 prochaines semaines les rescapés, mais aussi les proches des personnes décédées. On en vient à ces témoignages glaçants. Celui de ces patientes qui accusent le professeur Émile Daraï, l'un des spécialistes de l'endométriose, de violence gynécologique. La PHP a ouvert la semaine dernière une enquête interne. Bonjour Gauthier Delombugard.
Bonjour.
Vous avez rencontré plusieurs de ces femmes.
Oui, en 2018, sur les conseils d'autres femmes, Lucie décide d'aller consulter le grand spécialiste de l'endométriose, connu pour avoir soigné des milliers de patientes. Lors de la consultation à l'hôpital Tenon, le professeur Émile Daraï pratique un toucher vaginal, puis un toucher rectal.
Il m'a fait hyper mal, en fait. Il appuyait vraiment hyper fort. J'ai gémi parce que j'avais mal, donc on pouvait pas ne pas savoir que ça me faisait mal. Et il s'est pas arrêté pour autant. C'était vraiment son toucher qui était violent, ouais. C'est un boucher, ouais. Faut plus qu'il ait de femmes entre ses mains, ce type, quoi.
Depuis 2014, plusieurs signalements ont été transmis à l'hôpital, mais aucun n'a donné lieu à une enquête ou des poursuites judiciaires. Aucune patiente n'ose déposer plainte contre ce grand spécialiste. Sonia Biche est à la tête du collectif Stop aux violences gynécologiques et obstétricales.
C'est compliqué de porter plainte parce que ces personnes, elles sont vulnérables, parce qu'elles attendent des mois pour voir ce grand professeur. Elles ont besoin de ce médecin. Parfois, elles sont sidérées, elles ne savent pas comment dire non. Elles subissent dans l'espoir d'être soignées derrière. C'est assez dramatique.
Le collectif prévoit un rassemblement samedi matin devant l'hôpital Tenon. Le professeur Daraï fait savoir par la voix de la PHP qu'il conteste les faits. Il attend désormais les conclusions de l'enquête interne lancée la semaine passée au sein de son service.
Enquête signée Gauthier Delon-Bugard pour RTL.
Le retour de la Ligue des Champions et le PA et Paris Saint-Germain qui affrontent ce soir Manchester City.
Perdez vos mots, on va surveiller de près Pascal, ce trio magique dont on espère enfin qu'il sera magique. Mais pas que, Philippe Sanfourche, les attentes sont partout.
Oui, car avec son recrutement de stars, il n'y a pas qu'en attaque que le PSG s'est créé des problèmes de riches. Au poste de gardien aussi, Mauricio Pochettino, l'entraîneur, doit jongler entre l'expérience de Keylor Navas, 34 ans, 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions, et la jeunesse de Gianluigi Donnarumma, tout frais champion d'Europe italien, qui à 22 ans n'a encore jamais joué le moindre match de Ligue des Champions, mais doit débuter ce soir au nom de l'alternance. C'est un risque dont le PSG aurait pu se passer, remarquait Luis Fernandez, ancien entraîneur du club, ce matin sur RTL.
Keylor Navas, depuis qu'il est arrivé au PSG, c'est pas le maillon faible, c'est le maillon fort. Je n'ai rien contre Donnarumma, c'est un grand gardien. Je ne suis pas à l'intérieur du club, ça n'aurait pas été mon choix de prendre Donnarumma, parce que Keylor Navas, c'est un gardien qui a été aimé, apprécié par ses partenaires, par les supporters, par tout le monde au club.
La pression sera donc énorme sur les épaules de Donnarumma. Un énième doute à lever ce soir pour le PSG.
Oh, et cette musique que vous adorez, Pascal. Philippe Sanfourche du service des sports de RTL, PSG, Manchester City et la musique. Donc, ce sera à suivre dès 20h45 sur RTL, RTL Foot spécial Ligue des Champions. Et puis pour les fans de rugby, deuxième vague de vente des billets pour la Coupe du Monde 2023, celle qui aura lieu en France. C'est toujours un événement. La dernière fois, souvenez-vous, les serveurs avaient sauté. Au total, ce sont 250 000 nouveaux billets qui seront proposés donc ce soir à partir de 18h, des places notamment pour les quarts de finale.
J'ai été frappé parce que je regarde les factures de gaz et j'ai vraiment été tellement frappé que j'ai appelé même mes voisins pour tout vous dire. C'était il y a 2 mois. Et effectivement, chacun voit que le prix du gaz augmente. Et je me disais, mais il y a peut-être une erreur sur ma facture. Mmh. Pas du tout. Ça a augmenté depuis en un an de 57%. Ça sera notre premier débat. Et le deuxième débat, eh bien, ce sera les éboueurs à Marseille qui refusent de passer aux 35 heures. Ils font à 28 heures. C'est pourtant la loi qui l'exige. Poubelle la vie à Marseille. À tout de suite.
RTL. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
C'est une facture qui va finir par peser bien lourd dans le budget des ménages, celle de l'énergie. Il faudra compter 200 à 300 euros de plus à la fin de l'année. Le mois prochain encore, le prix du gaz va augmenter de plus de 12%. Plus 12% en octobre, plus 57% depuis le début de l'année. Le prix du gaz continue de grimper. Jusqu'à quand ? Comment faire face et surtout, la question peut-elle ou non peser sur la présidentielle? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service économie de RTL, je le rappelle. Cette nouvelle hausse du prix du gaz, elle s'ajoute, et il faut le répéter, hein, à d'autres. Électricité, carburant, vous avez pris votre calculatrice et l'addition à l'arrivée est salée, j'imagine.
Bah oui, parce que si on prend une famille type qui a 800 euros de budget de chauffage au gaz par an, la hausse depuis janvier, c'est 456 euros de plus. Rien que ça. C'est énorme. Ouais. 750 euros après de facture d'électricité, c'est à peu près la moyenne. Là, on compte 2% de hausse, donc c'est 15 euros simplement de plus depuis un an, mais ça va progresser dans les prochains mois, on le sait. Et puis enfin, si la famille roule avec une voiture au sans plomb 98, budget 1000 euros à peu près d'essence par an, eh bien là, la facture à la pompe, elle s'est alourdie de 160 euros. Donc, vous ajoutez tout ça, depuis janvier, cette famille paie 631 euros de plus pour son poste carburant énergie.
Et pourquoi ça va continuer.
Oui.
Oui, et pourquoi le gaz augmente?
Alors, le gaz augmente parce que on en importe 99%. Il y avait le gaz de l'Axe, et ça remonte à il y a longtemps. Et donc, comme c'est un marché qui est sous tension, qui vient de quelques pays, et notamment de la Russie, et qu'il y a une énorme demande en ce moment, en Chine particulièrement, eh bien, vous avez des prix qui flambent. On va au plus offrant. C'est une bourse, hein, les hydrocarbures. Et là, vous avez donc des prix de gros, comme on dit, qui augmentent, qui flambent, et qui se retrouvent et se répercutent dans notre facture finale.
Et on disait, ça va continuer. Parce que la demande, elle va augmenter avec les mois d'hiver, j'imagine.
Oui, c'est ça. Alors, on s'attend à des hausses du même ordre pour le gaz en novembre et en décembre, puisque là, on est sur une dynamique qui n'a pas lieu de faiblir. L'électricité, on pourrait prendre 10% l'an prochain si on écoute les associations de consommateurs, contre 2% cette année. Et puis, la production de pétrole, elle reste inférieure, là aussi, à la demande de reprise mondiale. Donc, on est à 80 dollars le baril aujourd'hui. Et les experts nous disent qu'on va vers les 100 dollars.
Alors, est-ce qu'on pourrait baisser les taxes pour que le consommateur paye moins cher ?
Alors on peut d'ailleurs, l'Union européenne ne s'y oppose pas et a même donné quelque part une sorte de satisfecit pour faire ça à l'ensemble des pays de l'Union. C'est un peu compliqué, vous savez, les prix de l'énergie. Si je prends le gaz, par exemple, vous payez une TVA de 15% sur l'abonnement, de 5% sur l'abonnement et de 20% pour la consommation. Donc vous avez deux TVA rien que sur votre facture de gaz. Alors on pourrait imaginer effectivement de baisser la TVA qui est à 20% et la ramener comme le reste à 5%. C'est compliqué dans le sens où là vous faites un geste à l'ensemble de la population, y compris aux plus riches. Et la philosophie du gouvernement, des gouvernements j'ai envie de dire depuis des années, c'est plutôt de cibler les ménages modestes. Donc ce qui peut être possible et envisageable...
J'ai surtout l'impression que c'est toujours compliqué de baisser une taxe.
C'est surtout difficile de les remonter.
c'est le principe de la TIPP flottante qu'on a abandonné pour ça.
Oui, qui
n'a
jamais fonctionné. Alors en revanche... Là, vous avez en ce moment, puisque les prix augmentent, des prix hors taxes, j'espère que vous me suivez bien, qui augmentent, et donc des recettes qui arrivent à l'État en plus.
Ils pourraient redistribuer, par exemple.
C'est une sorte de cagnotte qu'il y a en ce moment. Donc vous pourriez récupérer cet argent supplémentaire qu'on récupère à l'État pour le redistribuer, mais là plutôt sous forme de chèque carburant.
Je voudrais vous faire écouter ces réactions recueillies hier par Patrick Tégéraud à Toulouse sur ces Français justement pour qui tout ça pèse sur le pouvoir d'achat.
C'est comme le prix du carburant, c'est comme tout. Il n'y a pas le choix, en fait. C'est ça, malheureusement. Mais on se lève pour payer les factures qui ne cessent d'augmenter. C'est de plus en plus difficile.
Moi, encore dernièrement, j'ai constaté effectivement une hausse d'au moins 20 euros. Voilà, ça fait beaucoup et l'hiver n'est pas arrivé. On nous a vendu une concurrence qui serait censée faire baisser les prix, alors que non, ça augmente. Donc il y a une explication à avoir. Ça se fera ressentir sur les élections.
Ça se fera ressentir sur les élections, dit ce Toulousain. Ouais. On est à 7 mois du premier tour. J'imagine que tout le monde truque ça de près. On se souvient des Gilets jaunes. Notamment.
Oui, c'est l'obsession vraiment du gouvernement, c'est ce qu'on nous dit aussi bien à Matignon qu'à l'Élysée, parce que si vous voulez, le calendrier n'est pas très favorable sur ce point-là, parce que là on est en train de parler des hausses, ça va continuer, mais surtout à partir de février-mars, vous allez aussi avoir les négociations dans la grande distribution qui vont entraîner des hausses du chariot moyen, puisque là ça se passera à ce moment-là, et vous aurez aussi, puisque c'est en janvier, la hausse annoncée de l'électricité. Donc vous allez avoir une espèce de masse de hausses sur le panier moyen des Français, qui peut effectivement là devenir un vrai souci au moment des élections.
J'aurais adoré avoir Martial You comme professeur d'économie quand j'étais. je comprends à peu près tout et vous êtes très pédago. Merci beaucoup Martial. Il est 12h49 à Montréal. Et on va enchaîner avec un deuxième thème, les éboueurs à Marseille.
Oui, dans un instant, à tout de suite.
Dans un instant, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Des sacs plastiques, des poubelles de partout, le mauvais odeur, il y a tout quoi.
5 jours maintenant que la grève des éboueurs dure à Marseille et le ton, vous venez de l'entendre, commence à monter. Riverains et commerçants en ont marre de ces poubelles qui débordent, comme vous avez pu le constater sur place, Étienne Baudu.
Dans certaines rues du centre-ville, à deux pas du Vieux-Port, des containers commencent à déborder et des sacs poubelles éventrés jonchent les trottoirs, constatent désolés Edna et Eric.
Des sacs plastiques, des poubelles de partout, le mauvais odeur, il y a tout quoi.
On a toujours la crainte aussi au niveau des incendies, par rapport aux maladies, aux rats, enfin c'est pas quand même plaisant.
Et alors que les négociations ont à peine débuté, la plupart des habitants rencontrés dénoncent un mouvement de grève d'un autre temps. La métropole a l'obligation de se mettre en conformité avec la loi des 35 heures. Aujourd'hui, les reapers à l'arrière des camions bennes travaillent 3h30 par jour sur 6 jours. La métropole leur propose 5h42. Impensable pour les syndicats qui exigent des aménagements pour tenir compte de la pénibilité. Alex est commerçant, il ne comprend plus.
À Marseille, on a l'impression qu'ils sont un peu les spécialistes de la pénibilité. On a l'impression qu'ils remettent toujours les mêmes conditions et les mêmes causes en avant chaque année et essayer de gratter ce qu'ils peuvent gratter. Mais c'est vrai que ça devient vraiment pénible.
Et Muriel, une habitante, n'espère qu'une chose.
On prend toujours les gens en otage et ça c'est fatigant. J'espère que ça ne va pas s'éterniser parce que c'est agaçant.
À Marseille, le reportage pour RTL d'Étienne Baudu. Bonjour Patrick Ruet.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général force ouvrière des agents territoriaux de la ville de Marseille et de la métropole ex-Marseille-Provence. On a entendu la colère de ces Marseillais. On a expliqué les raisons de ce mouvement. Actuellement, vous travaillez donc 3h30 par jour sur 6 jours. La métropole propose 5h42. Pourquoi c'est impensable?
Non, mais il y a une manipulation des chiffres extraordinaire. Quand on dit que les éboueurs travaillent 3h30 par jour, ça veut dire que la tournée dure 3h30 par jour. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent 3h30 par jour. Il ne faut pas tout confondre. Et aujourd'hui, on est en train de stigmatiser les agents en faisant croire qu'ils ne font pas du tout leurs heures de travail. Ils font moins d'heures de travail, mais ça c'est logique puisque la pénibilité le permet, mais arrêtons de dire qu'ils travaillent 3h30 par jour.
Bah, c'est pas nous qui le disons, c'est un rapport de la Chambre régionale des comptes.
Oui, oui, mais on l'a.
Alors vous travaillez combien de temps, chaque personne travaille par jour?
Le temps de travail est comptabilisé, est annualisé.
Mmh. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est par jour, ça fait combien?
Non, mais ça, vous voyez, vous ne me posez pas les bonnes questions.
Bah oui, mais vous ne me donnez peut-être réponses. Pas les bonnes réponses.
Écoutez-moi, la loi, c'est le temps de travail annualisé de 1607 heures par an. Donc après, tout dépend de ce que vous y mettez dedans. Les éboueurs travaillent 365 jours par an. C'est-à-dire que là-dedans, il y a les dimanches, il y a les jours fériés, ils travaillent de nuit. Est-ce que vous voulez comptabiliser ces jours-là comme des jours normaux?
Non, mais que ce soit pénible d'être éboueur, on est tous d'accord. Mais moi, je voudrais une question simple, j'ai pas de réponse. Vous me dites temps annuel. Je voudrais savoir, aujourd'hui, par exemple, un éboueur, à quelle heure il arrive, quand il prend son service, et à quelle heure il repart. Ça, c'est une question simple.
Non, c'est pas une question simple. C'est une question qui manipule l'opinion publique.
Écoutez, monsieur
Ruet. Alors, juste, monsieur
Ruet. Vous m'étonnez, mais.
La loi impose donc qu'à partir du 1er janvier, il faut revoir les choses. Donc, c'est 35 heures pour tous les fonctionnaires, avec bien sûr la possibilité de négocier des aménagements pour tenir compte de la pénibilité.
Oui.
Je reprends les chiffres qui nous sont donnés, effectivement, par ce rapport. Et la métropole, aujourd'hui, vous propose la base de 5h42. Vous dites, c'est pas possible. Mais vous voulez quoi? Rester à ce qui est aujourd'hui? Vous donner un autre chiffre?
On veut une négociation qui soit sur une base annuelle. Aujourd'hui, la métropole nous propose une base annuelle de 1530 heures au lieu de 1607 heures. Nous, nous disons que ça ne correspond pas à la pénibilité du travail. Et je vous donne un exemple pour ça. On n'invente pas des heures. Vous prenez la police municipale de Marseille, donc qui a également des causes de travailler moins. La police municipale de Marseille est très légalement, à 1467 heures par an. Donc on peut quand même comparer les deux travaux, de dire, bon, il y a au moins une équivalence entre la dangerosité et la pénibilité, et donc avoir une base autour de 1460 heures en ce qui concerne les éboueurs. Je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux là-dessus.
Monsieur Ruet,
il n'y a pas compris le rang de scandaleux.
Monsieur Ruet, moi j'essaye simplement de comprendre, je vous assure. Un éboueur travaille 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7?
Non, il travaille 6 jours et là 3 jours de repos. Et c'est des cycles qui tournent sans arrêt.
D'accord. Donc c'est tous les éboueurs sont sur ce système-là.
Non,
on travaille
non.
À Marseille.
Non, c'est pour ça que c'est compliqué. Ça, c'est tous les éboueurs qui font la collecte, là où il y a la collecte, 7 jours sur 7. Après, d'autres...
Mais c'est plus avantageux 6 jours, 3 jours que 5 jours, 2 jours. Parce qu'un salarié classique, il a 5 jours de travail et il se repose 2 jours. C'est 6 jours consécutifs, 3 jours.
Oui, c'est plus avantageux de jamais avoir ses week-ends. C'est une façon de voir. C'est pas la nôtre.
Bah, c'est-à-dire qu'un éboueur, j'imagine, il a de temps en temps des week-ends, monsieur Ruet.
Oui,
mais en fait, on n'arrive jamais à comprendre parce que vous ne nous dites pas les vraies infos. Donc, je ne sais pas qui manipule qui, parce que c'est très confus, en fait, ce que vous nous dites. Si vous me permettez, monsieur Ruet.
Oui, mais ce n'est pas du tout confus, c'est très clair ce que je vous dis. Après, on a envie de l'entendre ou on n'a pas envie.
Bon, et vous cette grève, monsieur Ruet, dernière question, juste en un mot, elle va durer jusqu'à ce que la métropole cède ou...
Ben non, elle va durer jusqu'à ce qu'au moins les négociations commencent, elles n'ont pas commencé.
Et vous savez, monsieur, moi j'ai envie vraiment de quelque chose, monsieur Ruet, si vous me permettez, c'est que vous restiez avec nous tout à l'heure, avec les auditeurs. Parce que si ça serait formidable qu'ils engagent avec vous le dialogue. Moi j'ai eu un petit peu de mal à simplement avoir les infos, mais peut-être qu'eux auront plus de chance que moi. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors je vais vous dire quelque chose à vos auditeurs. Vos auditeurs, il y a quelques semaines de ça, ils applaudissaient quand les éboueurs y passaient. Parce qu'ils étaient enchantés qu'il puisse y avoir la collecte des ordures ménagères tous les jours pendant la crise sanitaire. Les éboueurs d'aujourd'hui, c'est les mêmes qu'hier, qui ont tenu Marseille propre, alors que la moitié des effectifs étaient malades.
Mais ce que vous dites est vrai aussi, monsieur Ruet. Et c'est un métier difficile, et effectivement, je pense que les gens ont beaucoup de sympathie pour les éboueurs. Je partage votre avis, mais je voudrais simplement, moi, avoir les infos, et j'y arrive pas avec vous.
C'est-à-dire que quand je vous les donne, vous ne les entendez pas.
Je trouve qu'on fait un dialogue formidable. C'est pour ça, restez avec nous, monsieur Rué. On est un poil en retard, mais je vous assure, ça vaut la peine, si j'ose dire. 12h59, le flash avec le rappel des titres, plus exactement, avec Amandine.